Vous écoutez
RMC. RMC, Estelle Midi.
La série du jour, une série noire survenue sur nos routes cette semaine avec une multiplication d'accidents dramatiques. Alfred, parmi les automobilistes impliqués, je le disais, certains roulaient sans permis, d'autres étaient sous stupéfiants, parfois même les deux.
Oui, dernier exemple, hier à Évry où un ambulancier sans permis et sous stupéfiants a été arrêté dans son véhicule devant l'hôpital. Parfois, Rémi, les bilans sont plus dramatiques comme mardi à Rennes où un conducteur sans permis a renversé mortellement un enfant de 2 ans sur un parking. Lundi à Limoges, c'était un conducteur positif au cannabis qui a heurté mortellement un cycliste. Des drames à répétition qui traduisent aussi une autre réalité. Les accidents impliquant des conducteurs non assurés ont augmenté de 3,5% entre 2021 et 2022, d'après le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Les fraudes au permis de conduire sont également en hausse, d'après un syndicat d'inspecteurs au permis de conduire. 40% des attestations du code de la route délivrées seraient en fait frauduleuses. La seule bonne nouvelle, c'est que le nombre de morts sur les routes françaises est en baisse. 3170 personnes ont perdu la vie en 2023, c'est 3% de moins qu'en 2022.
Et tu as raison de le dire, c'est en baisse malgré tout. Combien tu as dit de morts sur les routes l'année dernière ?
3170 morts exactement.
On est autour des 3000 et le plafond, on a atteint un plafond, ça ne baisse plus.
Ça fait 10 ans
depuis des années. Julia, tiens, je me tourne vers toi. Julia,
oui, non, ça fait 10 ans que.
Je te pose la question.
Oui.
Défaut de permis d'assurance, conduite sous stupéfiant, défaut de permis, etc. Y a-t-il trop de laxisme sur nos routes ? Vous nous appelez au 3216. Qu'est-ce que tu en penses ?
Oui, bien sûr. Alors, ça fait 10 ans que la mortalité sur la route ne baisse pas, dramatique, ne baisse plus. Il faut savoir aussi que les contrôles ont beaucoup baissé depuis 10 ans. On a eu 7 millions de contrôles routiers.
Physiques
en 2021.
C'est le gendarme, le policier qui fait arrêter la voiture sur le bord de la route.
40% de moins qu'il y a 10 ans. Donc allez savoir, c'est sûrement, et ça peut être lié. Évidemment, la consommation d'alcool et de stupéfiants, c'est la première cause d'accident mortel sur la route. 23% des cas. Ensuite, ça vient derrière, c'est la fatigue et la somnolence. Et ensuite, derrière, le quatrième facteur, on a la vitesse. Mais il y a une explosion aussi de la consommation de drogue dans ce pays. Et c'est forcément lié, et ça vient forcément avec. Mais oui, il y a un laxisme terrible et on n'arrive pas à faire baisser les chiffres.
Mais on fait quoi alors ? On met du bleu, comme on dit, sur la route, sur le bord des routes, on met du gendarme, du policier et on multiplie les contrôles, on met le paquet.
On est en train de faire
des opérations XXL, place nette, face à la drogue. Est-ce qu'il faut faire la même chose sur la route ?
Comme l'un et l'autre est un peu lié, si vous voulez, de toute façon, oui, il va falloir plus de police, plus de contrôle de partout, dans toutes les sphères, toutes les strates de la société. C'est... Il y a rien de surprenant en fait.
Yael Melul.
Alors même s'il y a moins de morts sur la route, il y a en revanche plus d'adolescents qui meurent sur les routes. Il y a une augmentation depuis 2019. Et sur les derniers faits divers qui sont à vrai dire plus des faits de société qui viennent d'être évoqués. Moi, celui qui m'a particulièrement bouleversé, c'est cet enfant de 2 ans qui se promenait avec sa maman dans un parking et qui a été percuté par une voiture. Donc s'il y a un laxisme sur les routes, il y a aussi un laxisme ailleurs parce que le conducteur était un ressortissant géorgien en situation irrégulière et sans permis. Donc en réalité, l'illégalité appelle l'illégalité. Dire, quand on est en situation irrégulière, donc quand on se met hors de la société, ça appelle forcément.
L'exemple que donnait tout à l'heure Alfred, c'est un ambulancier qui est contrôlé, interpellé devant l'hôpital. Un ambulancier en service, il est sous stupéfiant.
Ouais.
Il est apparemment intégré, il a un travail.
Absolument.
Il travaille.
Absolument. Attention, je dis pas que là, on est dans un cas particulier, mais un cas qui aurait été grandement évitable. Donc je dis simplement que s'il y a laxisme sur le contrôle des routes, il y a laxisme dans la totalité du système aussi. Et je veux dire, évidemment qu'il faudrait davantage de présence De bleu.
Mais il en veut partout, quoi.
Mais le problème, c'est qu'on.
On en veut devant les écoles, voilà. On en veut dans les routes, on en veut devant les cinémas, dans les synagogues.
On va manquer un personnel, en fait. Faut mettre le paquet. On peut. C'est une décision politique, c'est un choix politique.
Oui, mais.
On a plus d'argent, le déficit public, etc. Ouais, on fait des arbitrages. Et on en a fait, et j'entends qu'on les fasse, vu le contexte géopolitique actuel, on a renforcé le budget des armées, on a mis le paquet pour les armées. Là aussi, peut-être que ce sont des choix politiques à faire. Chérie.
D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que tous ces morts sur la route, ce sont des morts évitables.
Oui.
Ça fait partie, parce qu'il y aura toujours une petite proportion d'accidents inéluctables, une fatalité,
mais
la grande majorité, c'est des morts évitables. La deuxième chose, c'est qu'il y a une perception chez le citoyen de se dire « j'ai jamais d'accident, je roule très bien, donc pourquoi je paierais une assurance ? Une assurance, ça sert à rien. » Sauf que,
quand tu réfléchis comme ça, déjà, c'est qu'il y a un biais...
Absolument. De cette perception d'une petite infraction peut découler des choses gravissimes. C'est ça le problème. Et que je pense que le respect de la loi, elle commence par ces petites infractions, parce que si on commence à considérer qu'il y a une tolérance sur les petites infractions, on permet aux citoyens de pousser le bouchon un peu plus loin.
Absolument.
S'il n'est pas condamné, attrapé ou réprimandé pour une petite infraction, il pousse toujours le bouchon un tout petit peu plus loin. Et puis du coup, ça permet d'arriver à des infractions beaucoup plus graves. Donc moi, je suis pour une tolérance zéro en ce qui concerne... Je vais vous raconter une anecdote. Moi, j'ai accompagné un jour quelqu'un de ma famille qui passait en comparution immédiate pour avoir marché avec ses baskets. Il faisait le con sur des voitures. OK, comparution immédiate. Il s'est pris 800 euros d'amende. OK, 800 euros. Dans la même comparution immédiate, il y avait des gens qui roulaient sans permis, sans assurance, compris 200 euros d'amende, voire des sursis. Je trouve ça inadmissible. Je pense que ça, je n'ai pas compris. C'était il y a quelques années. Je n'ai toujours pas compris cette différence de traitement. Je pense qu'il faut être absolument impitoyable parce que, alors vous allez me dire, ces gens qui n'ont pas l'assurance, ils ne peuvent pas payer l'assurance, ils ne pourront pas payer l'amende. Je sais pas, on trouve un problème des travaux d'intérêt général, quoi que ce soit. Mais je pense qu'il faut absolument réprimander ces petits délits parce que petits délits entraînent des grands délits, comme tu disais.
L'illégalité
entraîne l'illégalité. Donc, et puis il y a une solution. Pas forcément besoin de mettre du bleu partout. Il y a des radars qui sont de plus en plus performants et qui arrivent à lire.
Quand t'as pris le cannabis, le radar,
le problème.
Je suis d'accord. Mais si déjà t'enlèves tous les gens qui téléphonent au volant grâce au radar, tous les gens qui n'ont pas d'assurance parce qu'ils lisent la plaque et on sait tout de suite si le véhicule est assuré.
Ça ne remplacera jamais. Alors ça,
je suis d'accord.
Ça ne remplacera jamais. Il en faut, moi, je ne suis pas contre. Mais ça ne remplacera jamais la présence humaine.
Est-ce que j'ai dit qu'il fallait remplacer ?
Je ne suis pas spécialiste de la question. Et d'ailleurs, si vous êtes gendarme ou policier, appelez-nous au 3216. Expliquez-nous. Je ne suis pas spécialiste du domaine, mais pour en avoir déjà débattu ici, avoir déjà discuté avec des membres des forces de l'ordre ou avec des avocats d'ailleurs de victimes de la route, aujourd'hui, on a fait une politique tout radar. On a tout délégué au radar pour mettre les policiers et les gendarmes sur autre chose, notamment, et les pauvres, ils sont les premiers à s'en plaindre, sur de l'administratif ou du social, et c'est pas leur cœur de métier. Aujourd'hui, on a fait du tout radar. Il faudrait peut-être rééquilibrer les choses. Donc j'entends ce que tu dis, il y a des radars qui peuvent soulager les forces de l'ordre sur certains points, mais il faut aussi, je pense, remettre du bleu sur la route.
Tu me fais dire ce que je ne dis pas. C'est-à-dire, évidemment, il ne faut pas enlever le bleu sur la route, il faut qu'il y en ait davantage. Ça, on est d'accord. Mais quand on a un outil qui est de plus en plus sophistiqué, qui permet, avec la lecture de plaques, de savoir si le véhicule est assuré, si la personne téléphone au volant, rien que le téléphone au volant, quand vous regardez les émissions de télé où il y a les contrôles, etc., le nombre de gens qui sont contrôlés avec le téléphone au volant, ça enlèverait un nombre
de... Il y a un autre élément dont il faut tenir compte, Thierry, c'est la peur. La peur du gendarme.
C'est vrai.
Si tu mets du gendarme sur le bord de la route, même pour contrôler l'assurance, même pour contrôler le permis de conduire,
souvent en général,
même pour dire tout va bien votre véhicule, je reviens, je fais le tour, ok, il est impeccable votre véhicule.
Souvent il y a plus d'une infraction.
Psychologiquement, tu sais que c'est important.
Je suis d'accord.
C'est important parce que justement ceux qui seraient tentés parfois de commettre une petite infraction.
Je suis d'accord.
S'il voit du gendarme, il va dire bon, oh là, ça fait longtemps que j'ai pas changé mes pneus, bon, je vais attendre. Si je vois régulièrement du bleu sur la route, du gendarme ou du policier, je vais me dire bon, allez, je vais les faire mes pneus parce que
je suis complètement d'accord, mais ça reste quand même un outil qui pourrait être utilisé avec les nouveaux radars très, très performants.
Merci Thierry. Allez, dans un instant, on aura avec nous un avocat, justement. Je le disais tout à l'heure, Maître Antoine Réglé, avocat auteur de Drame de la route, combat contre l'injustice. Il sera avec nous dans un instant, mais avant, on va évidemment au 32-16, on va rejoindre Jérôme. Bonjour Jérôme.
Oui, allô, bonjour.
Oui, bonjour Jérôme, merci bonjour. De nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC Story. Vous nous appelez d'où, Jérôme ?
Je suis de Bordeaux.
De Bordeaux, et je vois que vous êtes chauffeur routier, c'est ça ?
Ouais, tout à fait, oui.
Donc un professionnel de la route, vous passez votre journée sur les routes?
Alors moi, comme je disais à Thomas, je passe mes journées sur les routes. Je travaille depuis plus de 15 ans sur un gros axe qui est l'axe Espagne-Poitiers avec un National 10. Donc voilà. Et depuis que je suis sur cet axe-là, j'ai été contrôlé une fois. C'est tout à fait ce que vous disiez tout à l'heure. On ne voit plus de bleu sur la route.
Ça fait vous avez été contrôlé une fois en combien de temps?
En 10 ans. Je fais 500 km par jour avec mon camion. J'ai été contrôlé une fois. Alors par contre, je vais vous dire ce que je vois. Hein. Les radars. Alors je vais pas être dupe. Hein. J'ai Wise comme tout le monde. Hein, et Coyote. Hein. On sait là où c'est. Mmh. Hein, on est bien d'accord. Mmh. Par contre, on ne voit plus de bleu. C'est fini. Ouais. Donc, et je peux vous dire que...
Vous dites que c'est fini parce qu'il y a encore quelques années, quand vous avez commencé votre carrière, vous en voyiez beaucoup plus régulièrement?
Alors, moi, je vais revenir. J'ai 57 ans.
Ouais.
Quand j'étais jeune, j'ai travaillé dans le monde de la nuit. J'étais disquaire. Quand je rentrais de boîte là, en débauchant le soir, tous les week-ends, je voyais des contrôles. Ah, moi, j'ai des enfants, ils ont 20-25 ans. Ils ne voient plus personne. Ouais. Alors, c'est bien beau de dire que les radars, ils peuvent être sophistiqués. Déjà, il y a une chose. Moi, à mes enfants, quand je leur dis que je partais à un endroit, que j'étais perdu, quand il y avait de la gendarmerie ou de la police à côté, j'allais leur demander la route. Et tout le monde, les gosses, maintenant, ils sont stupéfiés quand vous leur dites ça. Mais forcément, avant, la gendarmerie dans les campagnes faisait partie du paysage. Ils étaient sur les bords de route. Vous allez leur demander quelque chose. Ils faisaient de la prévention. Ils vous disaient, tu vois, là, c'est pas bien ce que tu fais. Quand ils nous arrêtaient, on s'en souvenait. Moi, je me suis fait arrêter. Je vais vous prendre un exemple. Je me suis fait arrêter quelques fois, même pas flashé, pour des excès de 10 km/h. C'est pas la mort. C'est pas vilain. Je reçois le PV 3 mois après, je sais même plus là où je me suis fait arrêter. Qu'est-ce que vous voulez que ce soit répétitif? Oui, mais que ça aille plus vite ou pas, c'est sur le fait. Sur le fait, on vous arrête, on vous dit voilà, là ça va pas.
Ah, oui.
Donc être laxiste, oui. Comme je dis, les gens, on les punit une fois qu'il y a eu l'accident.
Quand on est en infraction et qu'on se fait contrôler par des gendarmes ou des policiers, je peux vous dire que ça marque aussi, hein, quand on est de bonne foi.
Voilà.
Ça fait un coup.
Et puis là où tu as raison, c'est que les radars de vitesse, c'est pas forcément la solution. Les radars de contrôle de plaque pour savoir si vous êtes assuré, ça, c'est utile.
Oui, mais mais vraiment, Thierry, le problème, c'est les jeunes qui sortent de boîte et qui sont bourrés, qui ont plus peur de croiser les flics sur la route. Je veux dire, c'est ça le fond du problème, c'est ça la première cause de mortalité. Sur les routes, c'est...
Oui, mais il y en a beaucoup moins, Thierry.
Ils ont plus peur de les croiser.
Moi, je me fais contrôler à peu près une fois par an. Donc, les gens qui se font contrôler tous les 10 ans, ils ont de la chance.
J'allais dire, entre guillemets, t'as de la chance. Parce que moi, franchement.
En sortie de boîte,
ça m'est arrivé il y a un an.
Je ne vais peut-être pas assez en boîte, en fait.
Oui.
Je vais peut-être pas assez en boîte.
Non, mais il n'y en a plus assez, vraiment.
Ou alors, t'as une tête qui revient.
Et les jeunes qui se pensent invincibles, c'est la seule chose qui leur fait peur, c'est de perdre des points sur leur permis ou de finir en commissariat, pas de tuer, pas de perdre la vie.
Merci à Jérôme d'avoir été avec nous au 32-16. Jérôme, qui nous appelait depuis Bordeaux. Maître Antoine Réglé, je le disais, est avec nous. Bonjour maître.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, avocat, auteur de Drame de la route, combat contre l'injustice. Maître, y a-t-il trop de laxisme aujourd'hui sur la route?
C'est large comme question. Je pense qu'il faut essayer de différencier les choses pour regarder la réalité avec objectivité. Pour ceux qui conduisent sous stup ou sous alcool, par exemple, pour la première fois, je ne dirais pas que la justice est laxiste en ce que ces gens-là prennent souvent 6 mois de suspension de leur permis de conduire, ils perdent aussi 6 points, il y a une amende, et je ne suis pas certain qu'on puisse dire que perdre son permis pendant 6 mois pour avoir conduit après avoir consommé un joint ou avoir conduit avec un taux d'alcool un peu trop important, ce soit laxiste. Première situation. La deuxième situation, c'est les cas des accidents qui ne sont pas causés par l'alcool ou par les stupéfiants. Moi, je peux pas entendre, même si et je les assiste, hein, les victimes, mais elles ne peuvent pas comprendre et je ne peux pas entendre qu'on doive envoyer quelqu'un en prison parce qu'il aurait été inattentif à un moment, parce que ça, les drames du quotidien, ça nous arrive à tous. Et souvenez-vous, vous la connaissez mieux que moi, Estelle, le nombre de fois où elle dit « Mais les piétons, les cyclistes, les trottinettes, un jour, je vais en plafonner un. » Bon, on n'a pas envie qu'elle aille en tôle. Bon, en revanche, ceux qui ont des accidents, qui causent des accidents alors qu'ils étaient bourrés ou sous stupéfiants, là, c'est vrai qu'ils ne vont pas souvent en prison. Moi, j'exprime aucun souhait. Je dis simplement que les victimes ne comprennent pas comment ces gens-là ne sont pas enfermés quand elles sont enfermées dans une souffrance.
Parce que il y a quelque temps, il y a eu le débat justement sur la création de l'intitulé, c'est pas le terme exact, mais d'homicide routier. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Mais alors, c'est très bien en ce que c'est un beau symbole et que les victimes demandaient à ce qu'on appelle ça un homicide routier, non plus un homicide involontaire. Ouais. Sur le plan du symbole, c'est très bien. Le problème, c'est qu'on s'est arrêté là. Et le vrai problème, c'est de prendre le problème à la racine. Les conduites sous stup, les conduites sous alcool, je vous disais, il n'y a pas un laxisme fou. Cependant, vous disiez, il n'y a pas la peur du gendarme. Moi, je vous dirais, il n'y a pas la peur du juge. Pourquoi? Parce que dans 95% des primo-délinquants, donc ceux qui conduisent sous stup, sous alcool, pour la première fois, ils ne vont même pas au tribunal. On leur envoie ce qu'on appelle une ordonnance pénale, c'est-à-dire une décision prise à l'avance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est condamné en correctionnel sans même aller devant le juge, on se déplace même plus, on n'a pas peur de l'audience. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il faut gérer les flux de dossiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en est arrivé à un point où on préfère gérer les stocks que de prévenir les morts sur la route. Et la responsabilité de l'État, elle est lourde. Alors moi, je veux bien qu'on change les mots. Je veux bien qu'on mette des budgets sur la justice, mais à un moment... Quand vous allez dire « oui, on va s'occuper des stupeux et des alcoolos » et que vous ne les convoquez jamais au tribunal, il faut arrêter de nous prendre pour des idiots.
Maître, une dernière question. Est-ce que l'État met suffisamment de moyens?
Non.
L'État je vous parle notamment, on l'évoquait, des effectifs sur le bord des routes.
Non, alors vous avez toujours les syndicats de police qui vont vous dire qu'ils n'ont jamais fait autant de contrôles. Non, je crois que tout n'est pas une question de budget. Le problème, c'est qu'on est gouverné par des gens qui ne pensent qu'économie, qui ne pensent budget. Et quand vous êtes gouverné par des énarques, c'est normal qu'ils pensent comme ça. Moi, je pense quotidien. Et nous, on fait une proposition dans le bouquin qui consiste à dire, attendez, si les gens n'ont pas peur de rouler sans permis, sans assurance, etc., peut-être qu'ils auront peur d'être ruinés à vie. Alors, qui sera ruiné à vie? Eh bien, si on propose à ceux qui ont des accidents à cause de l'alcool ou de stup, si on leur dit, on va venir vous chercher, vous, dans votre porte-monnaie, les dommages et intérêts que vous allez devoir à la victime et que l'assurance aura au préalable avancé, vous allez être ruiné à vie. Les gens n'ont pas peur de la tôle, ils n'ont pas peur du juge, ils n'ont pas peur des bleus, ils n'ont pas peur de perdre leur permis. Mais si on leur dit qu'ils seront endettés à vie et leurs enfants avec, peut-être que là, ils vont comprendre. Donc ça, cette proposition, ça fait des mois qu'on l'a dit sur les antennes. Personne ne nous entend. Voilà.
On l'a redit.
Non, l'État n'en fait pas assez, mais parce que l'État n'a pas envie d'écouter les autres propositions que les siennes.
En tout cas, c'est redit une nouvelle fois. Merci Maître Antoine Réglé d'avoir été avec nous, avocat, auteur de « Drame de la route, combat contre l'injustice », c'est paru aux éditions Hugo Doc. René nous rejoint au 32-16. Bonjour René.
Oui, bonjour.
Bonjour. René, vous nous appelez d'où?
Je vous appelle de l'Isère, de l'île d'Abo, une commune entre Lyon et Grenoble.
D'accord, vous faites quoi dans la vie, René?
Je suis chef de cuisine, actuellement en poste. J'ai des clients qui sont à table, mais ils vont attendre. Ils vont attendre, c'est pas grave.
Bah c'est bon, en tout cas, on s'attendait déjà bon appétit. Mais si vous nous appelez, René, c'est parce que tout récemment, vous avez vécu un drame, quoi.
Ouais, j'ai vécu, et bon, ma fille de 12 ans l'a vécu aussi, qui s'est fait renverser par un automobiliste sur le passage piéton, par un automobiliste qui était en interdiction de conduire. Suite à un problème physique et plus ou moins un petit peu psychiatrique aussi.
D'accord.
Donc elle était interdite de conduire, cette personne. Elle a fauché, ma fille a failli faucher sa petite copine aussi en même temps. Délit de fuite, donc non-assistance à personne en danger et tout. Voilà.
Elle a eu quoi, votre fille?
Fille a eu une fracture ouverte du fémur. Oh. Je peux vous dire que je suis allé la voir sur les lieux de l'accident et l'hurler sur le trottoir, c'est très très traumatisant aussi pour elle et puis pour les personnes qui vivent ça
évidemment
en direct. Voilà. Donc suite à ça, moi, mon témoignage, il était plutôt sur l'après, c'est-à-dire que cette personne, suite à divers témoignages, à divers visionnages de caméras de vidéosurveillance, cela s'est produit dans la nuit dans la journée de samedi dernier, le 30 mars.
Ouais.
Donc dans la nuit du 30 au 1er avril, cette personne a été interpellée suite à divers témoignages. A été placé en garde à vue.
On vous entend plus, René.
Il s'en est suivi la procédure normale, que cette personne a été placée en garde à vue, que suite à l'issue de cette garde à vue, cette personne a été relâchée, et on nous dit, en attendant des examens psychiatriques. Donc cette personne actuellement est tranquillement chez lui, peut-être qu'il va faire son footing, alors que ma fillette passe la moitié de sa journée allongée sur un lit. Donc voilà.
Ouais, on l'entend, donc, c'est vrai que c'est le témoignage de René, c'est vrai que c'est très, 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 très dit. Et encore, quand c'est sa fille, Mais c'est très difficilement acceptable, même pour nous, hein, d'entendre ce type de témoignage. Comment elle va, votre fille, aujourd'hui, René?
Bah, elle va, elle se remet, comme je disais à vos collaborateurs, elle se remet doucement de ce qui lui est arrivé. Mmh. Et il va y avoir une convalescence derrière, une rééducation, et... Bon. Mais le choc psychologique, je pense qu'il va rester quand même.
Bah, on vous souhaite et on lui souhaite beaucoup, beaucoup de courage, sincèrement, René.
Merci beaucoup et bravo à vos équipes, vous êtes formidables.
Bah, merci à vous, parce que René. C'est grâce à vous qu'on fait ces émissions. Merci à vous de nous avoir appelés au 32-16.
Derrière les chiffres, il y a des drames, en fait. Ouais. Derrière les chiffres, il y a des 3000 morts, il y a des drames, ouais. Des vies.
C'est vrai que tu as raison de le préciser, Cyril, parce que c'est vrai que les chiffres, on les balance comme ça, mais ouais. 3000 morts. Et sans compter les blessés.
Donc vous vous rendez compte le nombre de gens impactés?
On vous a posé la question des faux de permis d'assurance, conduite sous stupéfiant, y a-t-il trop de laxisme sur la route?
Vous répondez oui à 86%, non à 14%. Je finis avec un message de Cyril. Conduire sans permis, sans assurance ou sans alcool est devenu banal. Il faut absolument réagir.